Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Apprendre aux élèves à développer leur esprit critique. Ce lundi commence la 32e édition de la semaine de la presse et des médias à l'école. On en parle avec la coordinatrice du CLEMI de l'Académie de Lyon.
Les jeunes et l'info, éclairage avec Karine Ayri, enseignante-chercheure en sciences de l'information et de la communication.
Faire face aux fausses infos, théories du complot, ça s'apprend. François Lepoultier, ancien professeur en psychologie sociale, a publié un manuel.
La tannerie est occupée et chaque midi, réflexion sur l'avenir du monde culturel, reportage et nous irons aussi au monastère de Brou. Le monument s'adapte et propose une exposition virtuelle.
Et tout de suite, c'est l'actu en bref.
Bourque en bref.
Les acteurs de la culture mobilisés à Bourque.
Dimanche dernier, ils étaient environ 300 sur la place de la Comédie pour demander la réouverture des lieux culturels. Le rassemblement était rythmé par des discours et des déambulations musicales. C'est le collectif Action Culture 1 qui l'organisait en lien avec l'appel du syndicat national des entreprises artistiques et culturelles. Le maire Jean-François Debat était aussi sur place pour les soutenir. Le collectif veut maintenant réaliser une vidéo de soutien. Il appelle donc les personnes intéressées à venir à la tannerie pour passer devant la caméra. Nous reviendrons sur la mobilisation des acteurs culturels en fin d'émission avec un reportage.
Toujours dans la culture, le printemps des arts a bien lieu, mais virtuellement.
L'événement proposé par la CA3B, l'agglomération de Bourque, a lieu du 31 mars au 3 avril. Un spectacle de danse sera diffusé sur 3 dates. C'est le collectif Accord de Plume qui l'a créé pendant le premier confinement. Et pour le voir, c'est gratuit et en ligne via la plateforme Shotgun. La première, ce sera le mercredi 31 mars à 20h30.
L'agglo de Bourque recrute ses saisonniers.
Il reste encore quelques postes à pourvoir, des animateurs pour les enfants et les ados au centre loisirs de Morvel-en-Bresse et un éducateur sportif spécialisé dans le tir à l'arc pour la plaine tonique, toujours à Morvel. Toutes les infos sont sur le site de l'agglo, grandbourque.fr. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 12 avril.
Des séances de sport gratuites pour les étudiants.
La ville de Bourque propose aux étudiants une heure de sport les samedis matins, à 10h pour les débutants et à 11h pour les confirmés. C'est une session de renforcement musculaire et c'est jusqu'au 10 avril.
À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM. La semaine de la presse et des médias à l'école commence ce lundi 22 mars. 6 jours pour aider les élèves à découvrir les médias et les journalistes et former leur esprit critique. D'ailleurs, à quoi servent les journalistes?
C'est des personnes qui posent des questions. Ils filment des choses importantes.
Ils écrivent. Ils disent des informations à la radio, à la télé ou dans des journaux.
Ils fabriquent des journaux et après on les distribue à la maison.
Ils peuvent aller dans un lieu où il s'est passé quelque chose pour raconter comment ça s'est passé. Et des fois après, ils interrogent des gens.
Ils font des fois des dessins, par exemple, dans un coin. Et après, ils écrivent des choses.
Merci aux enfants de l'école Charles Jarin, Bourg-en-Bresse, pour leur participation. La semaine de la presse et des médias à l'école est organisée par le CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Edwige Jamin, coordinatrice au CLEMI de l'Académie de Lyon. Chaque académie a son coordinateur, sa mission, mettre en place des actions dans les établissements scolaires.
Je sais qu'il y a une certaine méfiance par rapport au métier de journaliste en particulier. Alors, c'est pas tous les élèves qui sont méfiants par rapport à la formation, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui ressort assez régulièrement, surtout avec les élèves de lycée en particulier. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de revenir sur les bases de qu'est-ce que c'est qu'un journaliste, comment il travaille, comment il vérifie l'information systématiquement. Et malheureusement, tous les événements un peu dramatiques, tragiques qui ont eu lieu ces dernières années ont révélé et mis en avant pas mal de théories du complot et de méfiance.
Donc il y a cette semaine de la presse et des médias à l'école, quel est son objectif?
Alors, en fait, l'objectif, c'est déjà de toucher l'ensemble des élèves de l'éducation nationale. Et l'idée, c'est de leur permettre de comprendre le système des médias, de les former, leur permettre de se former un jugement critique aussi par rapport aux informations qu'ils vont essayer de trouver, de recouper, et puis de développer leur goût pour l'actualité, pour essayer de leur faire comprendre le pluralisme des médias, et puis de voir le traitement de l'information, d'une même information, par exemple, sur un média radiophonique ou télévisuel ou presse papier.
Est-ce qu'il y a des supports qui sont créés par le CLEMI qui peuvent être une source pour les parents au quotidien ?
On entend l'inquiétude des parents par rapport à l'usage des médias de leurs enfants. Et sur le site du CLEMI, justement, il y a un onglet qui s'appelle « Espace famille ». Et on y retrouve des ressources spécifiques pour les parents en particulier. Et l'idée, c'est de mettre à disposition des ressources qui peuvent leur permettre d'enclencher une discussion avec leurs enfants. Donc, ça prend plusieurs formes. Il y a une bande dessinée qui est sortie dernièrement qui s'appelle « Dans la tête de Juliette », qui permet de rentrer dans la tête d'une adolescente et de voir au quotidien, du matin jusqu'au soir, comment elle va gérer sa relation au téléphone, au numérique, aux écrans. Donc ça, ça permet ensuite d'enclencher éventuellement une discussion. Et puis, il y a surtout un guide pratique qui s'appelle « La famille tout écran ». Donc, on en est à la version 2. Alors, c'est à la fois une brochure avec beaucoup de conseils et d'études autour justement de l'usage des écrans des adolescents. Et à ce guide, il y a une série télévisée qui est sortie aussi sous forme de petites vidéos de 2 minutes 30, 3 minutes à peu près, qui traitent à chaque fois d'une problématique en lien avec la famille. C'est-à-dire que l'idée de ces vidéoclips-là, c'est de mettre en scène une famille type et de voir comment interagissent les parents avec les adolescents par rapport à des problématiques en lien avec le téléphone et l'usage des écrans.
L'édition 2021 de la Semaine de la presse et des médias à l'école s'est adaptée au contexte sanitaire. Dans toute la France, des journalistes ont prévu d'échanger en classe avec des élèves. Des médias partenaires du CLEMI pour cet événement proposent des conférences en ligne destinées aux enseignants et aux élèves pour là aussi discuter avec des journalistes.
Et Audrey, vous participez jeudi 25 mars à une table ronde en ligne avec un journaliste de France 3 et une journaliste indépendante. Vous parlerez chacun du traitement de l'information dans vos médias respectifs et des ateliers que vous menez auprès des élèves. C'est ce jeudi de 13h30 à 16h30 sur la plateforme du CLEMI. Retrouvez le lien sur notre site internet et sur la page Facebook de Radio B.
Radio B.
Radio B.
Karine Ayri, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante-chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Poitiers. Comment les jeunes s'informent ? C'est ce que l'on va décrypter avec vous. J'ai posé quelques questions à un petit groupe de collégiens à Montrevel-en-Bresse.
Si je veux m'informer maintenant, on a nos téléphones. Et si vraiment je veux m'informer sur ce qui se passe, je regarde la télé avec mes parents. Mais vu que maintenant ils parlent que du Covid, c'est ennuyeux.
Est-ce que tu vas lire des journaux, écouter la radio pour t'informer ?
Non, pas vraiment. Les journaux, j'en ai pas. Mais la radio, je l'écoute surtout pour la musique, pas pour l'information.
J'écoute plus la radio parce que la télé, j'aime pas trop regarder la télé, je suis pas fan de télé. Je préfère la radio puis parce que ça va vite, c'est court. Et puis on trouve facilement, il n'y a pas de pub principalement. Enfin, il y en a beaucoup dans certaines radios, mais certaines, il y en a moins.
Alors Karine Ayri, c'est un petit échantillon, mais que pensez-vous de leur réponse ?
La première des choses, c'est la dimension familiale aussi de ces pratiques. Parce qu'à un moment donné, je crois que le premier intervenant parle du fait qu'il regarde la télé plutôt avec sa famille. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment à mettre en perspective quand on parle des pratiques d'information des jeunes et des adolescents en particulier, parce qu'on a souvent tendance à focaliser uniquement sur eux, en oubliant qu'ils ont aussi bien évidemment des parents, une famille, des amis et d'autres personnes, adultes ou non, avec lesquelles ils vivent, ils interagissent. Donc tous ces médias dits intergénérationnels tels que la radio, la télévision, la presse écrite également, est souvent présente en creux dans leurs pratiques. Ce ne sont pas leurs pratiques en propre, mais ce sont des moments où ils s'informent avec leur famille notamment. L'autre point que je retiens de ce que vous venez de me faire écouter, c'est peut-être la représentation de l'information pour ces jeunes. On entend bien que la plupart de ceux qui sont intervenus là désignent l'information au sens presse, médias, l'information sur ce qui se passe en France et en dehors. C'est une partie de ce qu'on peut entendre par l'information au quotidien, finalement, puisque dans ces pratiques d'information, il faut inclure effectivement ce souci de savoir ce qui se passe dans le monde, autour de soi, plus ou moins proche. Et puis, ce qu'on fait aussi pour s'informer au quotidien, de manière très ordinaire et parfois peu significative aux yeux des personnes qui s'expriment. Et là, par exemple, il est question de la radio. On écoute la radio pour la musique. Je suis étonnée, par exemple, qu'il n'ait pas été fait mention de regarder des vidéos sur YouTube, par exemple, hein, des vidéos en rapport avec un jeu qu'on apprécie.
Parce que ça, c'est souvent des pratiques qu'on retrouve chez les plus jeunes, de s'informer.
Oui, c'est souvent des pratiques, voilà. Hein, et souvent, quand on les interroge, ça ne vient pas tout de suite parce qu'ils n'estiment pas forcément que ça, c'est de l'information. Parce qu'ils associent l'information à l'actualité nationale et internationale. Alors que du point de vue de la recherche, quand on s'interroge sur les pratiques d'information des jeunes notamment, on inclut aussi toutes ces pratiques très quotidiennes, très ordinaires, de renseignement, mais aussi d'information sur des thématiques comme les jeux ou autre chose, des choses qui intéressent les jeunes. Et ça, il faut souvent creuser un petit peu plus pour que ça puisse apparaître.
On parle souvent des digital natives. Qui sont-ils ?
C'est une expression pour désigner le fait que les jeunes nés au tournant des années 90, à la fin des années 90, qui, sous prétexte d'être contemporains de l'invention de ces technologies telles qu'on les utilise actuellement, seraient plus enclins à les utiliser et plus à l'aise, alors que la recherche a depuis de nombreuses années déconstruit cette représentation qui est fausse. Parce que la recherche a montré la richesse et la diversité de ces pratiques. Donc dire que sous prétexte qu'ils soient jeunes d'un certain âge, ils soient tous considérés comme un groupe entier en étant à l'aise, connectés au maximum avec les technologies, ça ne pose pas de problème pour eux, c'est faux. Hein, ça masque l'hétérogénéité, la diversité des pratiques qui sont des pratiques individuelles, ce rapport à l'information, c'est quelque chose qui se construit à titre individuel, ça fait partie intégrante de la personnalité des gens et c'est idiot de désigner de manière générale toute une génération sous prétexte qu'elle soit contemporaine de ces technologies.
En quoi le numérique est un progrès pour les jeunes pour s'informer ?
Je pense qu'il faut plutôt prendre ça sous l'angle des enjeux. Quels sont les enjeux dans ce nouvel écosystème et notamment pour les jeunes ? Et là, en termes d'enjeux, se posent des questions justement sur la diversité, voire l'hétérogénéité des pratiques et leur accompagnement nécessaire, notamment par les instances d'éducation et de médiation, l'école, l'éducation populaire, voilà, tout ça.
Oui, donc là, après, vous parlez des enjeux, et donc là, on pourrait parler de limites, justement, du numérique.
Des limites du numérique, c'est surtout que le numérique, je dirais, pour faire assez rapide et un peu slogan, ça s'apprend. C'est aussi le danger de l'expression digital native, c'est qu'on estime que, de fait, les jeunes seraient plus à l'aise avec les technologies. Donc, du coup, n'auraient pas besoin d'être accompagnés. C'est plutôt nous, les anciens, les adultes, qui auraient besoin de se former pour rattraper notre retard vis-à-vis de ces jeunes. Donc ça, c'est complètement biaisé. L'idée, c'est de justement avoir bien conscience de la nécessité d'une médiation, d'un accompagnement des jeunes à leur pratique numérique.
Karine Aïri, merci.
De rien, merci à vous.
Je rappelle que vous êtes enseignante-chercheure en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Poitiers.
L'invité de Radio B.
François Lepoultier, bonjour.
Oui, bonjour.
Ancien professeur des universités en psychologie sociale, vous avez publié « Comment naviguer dans les eaux troubles d'un océan d'absurdité », manuel psychosocial d'autodéfense intellectuelle aux éditions Presse universitaire de Rennes. François Lepoultier, qu'est-ce qui menace aujourd'hui notre esprit critique ?
Ce qui menace notre esprit critique, c'est un monde de l'information dans lequel prolifèrent des choses complètement inexactes, fausses, des théories du complot, des faits qui sont scientifiquement non avérés, et que face à cela, je dirais, le public, les auditeurs, les spectateurs, ceux qui sont confrontés à ce type d'informations peuvent être complètement désemparés. Et je pense qu'on a des exemples très évidents. Hein. La pandémie, par exemple, ça a donné lieu à tout un tas de choses vis-à-vis desquelles on est effectivement un peu démunis.
Vous parlez de graves conséquences face à ce déluge d'informations. Lesquelles ?
Si on parle du Covid, de la pandémie, il y a eu une époque, il y a eu un moment où vous aviez une majorité de personnes qui n'envisageaient pas de se faire vacciner. Pour eux, c'était, vous aviez, je ne sais plus quel était le sondage, mais c'était bien autour de 60, si ce n'est pas, même plus encore. Et puis ça a basculé, ça. Heureusement que ça a basculé, parce que quand même, la parole d'un médecin, la parole d'un scientifique, ça vaut mieux que la parole d'un complotiste, d'un conspirationniste ou d'un illuminé quelconque. Bon, il y a un moment, tant mieux, il y a un peu de sagesse qui rentre dans l'opinion publique et qui fait que maintenant, on a une majorité de gens qui veulent se faire vacciner. Et puis vous avez, toujours pour parler un peu en référence à la pandémie, mais on ne peut pas l'oublier, vous avez ce fameux film Hold Up, qui est pour partie un tissu d'allégations complètement fausses. Et vous avez, j'en ai malheureusement dans mon entourage, des gens que j'estime à la fois cultivés, que je pense intelligents, que je pense raisonnables, qui ont dit « mais il faut absolument regarder ça, c'est vrai, on nous cache tout, on nous dit rien, etc. etc. » Donc ça, c'est quand même grave de penser que des citoyens peuvent être abusés, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, par des fausses informations, par des théories absurdes, par des imposteurs, parce qu'il faut les appeler par leur nom, des imposteurs qui disent n'importe quoi, qui disent n'importe quoi. L'élection de Trump a été en partie due, donc lors de son élection, à des fausses informations qui ont été diffusées, qu'il a lui-même utilisées, comme le fait de dire qu'Obama n'aurait jamais dû être président des États-Unis parce qu'il était né en Afrique, donc il n'aurait jamais dû être élu comme citoyen d'origine américaine. Et Trump le savait que c'était faux, mais il l'a utilisé parce que ça servait ses intérêts du moment. Le Brexit, c'est la même chose, est en partie expliqué par des fausses informations qui ont été diffusées sciemment par des personnes et qui ont, l'expression, il faut l'utiliser, il faut l'assumer, qui ont manipulé des électeurs, des citoyens, en leur faisant croire des choses qui n'étaient pas.
Et comment donc réagir face à des thèses complotistes ?
C'est ne pas admettre spontanément ce qu'on vous dit. C'est faire preuve de doute par rapport à quelque chose. C'est avoir une certaine forme de scepticisme, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire de remettre en question quand quelqu'un vous dit « Oh mais si, attends, c'était écrit là », d'aller regarder, de croiser des sources par exemple. Les médias, c'est important pour ça. Quand vous allez voir sur plusieurs médias, à propos d'une même information, vous croisez les sources. Mais beaucoup de gens ne le font pas. Et puis ils sont, comme on dit aujourd'hui, la technologie le permet de le faire, ils sont enfermés dans ce qu'on appelle, c'est un terme un peu savant, des bulles cognitives. Une bulle cognitive, c'est que quand ils cherchent de l'information, par exemple sur Internet, il y a un algorithme qui est derrière, qui va leur proposer des sources d'informations qui correspondent à ce qu'ils ont déjà cherché. Donc ils sont dans une phase qu'on appelle de confirmation d'hypothèse parce qu'ils ne sont exposés à des informations qui ne vont que dans le sens de ce qu'ils croient. Donc ils sont renversés dans leurs croyances. Donc c'est très insidieux comme processus là, d'être là comme ça. Donc moi ce que j'ai d'ailleurs, le livre est sous-titré « Manuel psychosocial d'autodéfense intellectuelle ». Je pense qu'il faut intellectuellement s'autodéfendre et tout le monde peut le faire en...
François Le Poultier, pour terminer, donc vous avez écrit une suite à votre livre « Comment naviguer dans les eaux troubles d'un océan d'absurdité ». Est-ce que dans ce tome, vous insistez aussi sur la responsabilité des médias traditionnels ?
Oui. Je pense qu'il y a un vrai problème quand un journaliste, je n'attaque pas les journalistes, ils font un métier parfois difficile, mais quand ils savent pertinemment bien sur un plateau ou un débat ou un talk show qu'ils vont mettre en présence deux personnes dont l'un est un imposteur, excusez-moi, et puis un autre qui est un scientifique, ça va faire quoi ? Ça va faire une espèce de jeu de cirque, d'un affrontement, d'un échange d'injures, d'arguments. C'est un débat impossible et je pense que malheureusement, dans le monde médiatique, il y a beaucoup de de moments d'échange d'informations, qui devraient être des moments d'échange d'informations, mais qui sont en fait des jeux du cirque, un débat inutile qui n'apporte rien.
François Le Poultier, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Je rappelle que vous êtes donc ancien professeur des universités en psychologie sociale. Oui. Et je rappelle donc le titre de votre ouvrage, « Comment naviguer dans les eaux troubles d'un océan d'absurdité ?» Manuel psychosocial d'autodéfense intellectuelle aux éditions Presse universitaire de Rennes.
Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ce matin ?
Ce matin, entretien de vélo, changement de chaîne, nettoyage de transmission.
On va d'abord commencer par faire la vague. D'accord ? Vous voyez là derrière, au fond, loin, il y a une vague.
En reportage avec Radio B.
Les acteurs de la culture sont toujours en lutte en France comme à Bourg-en-Bresse.
Dimanche dernier, le collectif Action Culture 1 a manifesté devant le théâtre de Bourg-en-Bresse. Suite à l'appel national du Syndéac, le syndicat des entreprises artistiques et culturelles, l'objectif, demander la réouverture progressive des lieux culturels et des mesures d'accompagnement. Depuis maintenant une semaine, la tannerie est occupée. Les personnes qui soutiennent ce mouvement peuvent venir tous les jours en semaine le midi pour discuter de l'avenir du monde de la culture. C'est aussi le collectif Action Culture 1 qui organise cette occupation. Et nous sommes allés rencontrer une partie des participants au mouvement.
Edgy Kowalski, artiste musicien qui travaille avec le collectif Ishtar et je suis aussi technicien. L'activité de la structure est à zéro alors qu'on a des charges fixes qui continuent. Alors après, il y a des dispositifs d'aide de l'État pour les employés, des recours au chômage partiel, des choses comme ça. Mais en même temps, il y a toujours malgré tout un tout petit fonds d'activité, des choses à suivre. Donc on ne peut pas mettre tout le monde non plus au chômage partiel. Combien de temps est-ce qu'on va tenir ? La résilience, oui, mais il y a un moment, c'est plutôt la disparition, quoi.
Je suis Christine Larivière, je suis comédienne et metteur en scène à la Diesel Company. On a une création qui a été décalée, qui est sortie en octobre, donc elle a à peine vu le jour avec deux représentations. Et là, maintenant, on a des dates de report sur avril, mai, juin 2022. Donc, si par exemple, on met en place une nouvelle création, si on la réalise maintenant, c'est pour qu'elle soit diffusée au public en 2024. Quel est le sens ? On se retrouve dans un entonnoir où finalement des créations vont être réalisées avec beaucoup d'énergie et elles n'auront même pas l'occasion de voir le jour.
C'est vraiment une réunion pour tous et c'est quand même... On y tient, même le public, parce que... Si la lutte est longue, je pense qu'on va avoir besoin de soutien.
Donc... Certainement que les lieux ne pourront pas rouvrir avec des jauges complètes. Donc ça veut dire que le taux d'occupation de la salle sera beaucoup moins que sa capacité. Et donc du coup, comment on fait ? On multiplie les spectacles pour qu'un maximum de gens puissent voir. Et puis c'est pour les artistes, ça veut dire aussi les techniciens et toutes les équipes qui travaillent. Il va y avoir beaucoup de gens d'un coup sur le marché et peu d'opportunités. Et en même temps, la population a besoin de culture, a besoin de rendez-vous culturels, a besoin de retrouver des liens sociaux. Donc, il faut qu'il y ait un plan de soutien, afin qu'on imagine cette reprise, qu'on n'arrive pas à une destruction d'outils, de compagnies, de lieux qui ne vont plus pouvoir continuer à exister. Donc, la diversité, elle risque d'être très à mal.
Donc, lors du jour de cette réunion, c'est justement la préparation de... Du rassemblement de samedi, en fait, on avait prévu.
Ce qui nous dérange, c'est cette injustice. C'est-à-dire que, par exemple, les galeries d'art sont ouvertes et les musées sont fermés. Bon, évidemment, les Sephora sont ouverts, les magasins sont ouverts et les salles de spectacle sont fermées. Quelle est la cohérence ? Et nous, on a vraiment cette sensation d'injustice. On veut des réponses claires et concrètes. Et surtout, c'est qu'il y a eu des études qui ont été menées en Espagne, en Allemagne, l'Institut Pasteur, qui ont prouvé que les protocoles sanitaires ne formaient pas de clusters dans les salles de spectacle. Donc, il faut qu'on nous explique, en fait. Et on ne nous dit rien. Donc nous, on veut simplement des réponses concrètes.
Très bien, symboliquement, on passe un quart d'heure devant la place de la Comédie, histoire de dire on a été devant le théâtre.
Bah, le but, c'était quand même un peu ça, quoi. C'était de, d'être en soutien à l'appel qui a été fait au National. Mais du coup, pour rester un peu cohérent, quoi. Là, le but, c'était...
Le collectif Action Culture 1 a aussi voté en Assemblée Générale 4 points de revendication. La réouverture immédiate des lieux culturels, la prolongation de l'année blanche pour les intermittents, ce qui leur permet de conserver leur droit au chômage sans avoir accumulé 507 heures de travail sur l'année. Elle est pour l'instant prolongée jusqu'à fin août 2021. Ils demandent aussi un plan de financement pour la réouverture des lieux culturels et la suppression de la réforme de l'assurance chômage. D'autres points pourraient s'ajouter avec la prochaine Assemblée Générale vendredi. Elle concernerait des aides pour les jeunes qui débutent dans le milieu artistique.
Dans le monde de la culture, on montre son mécontentement, mais on agit aussi pour permettre au public d'accéder aux œuvres et aux artistes.
Et la tannerie propose toujours des concerts en streaming. La semaine dernière, c'était avec le groupe bordelais Mars Red Sky. Et le 2 avril, vous pourrez entendre Mademoiselle K. Elle se produira au monastère de Brou et vous pourrez voir son concert via votre ordinateur.
Et toujours au monastère de Brou, une exposition sur la peintre Suzanne Valadon et ses contemporaines s'est installée.
Faute de public, c'est une exposition virtuelle qui est proposée. On vous la présente.
Bonjour, je suis Magali Bria-Philippe, commissaire de l'exposition Valadon et ses contemporaines et responsable des patrimoines au monastère royal de Brou.
Est-ce que vous pouvez résumer comment vous avez pensé cette exposition ?
Elle est née en fait de l'idée de mettre en valeur Suzanne Valadon. Moi, j'ai toujours été frappée par le fait qu'elle était systématiquement associée à son fils, Utrio, et de son conjoint, Uther. Alors qu'indéniablement, lorsqu'on regarde leurs œuvres, c'est elle la grande artiste, qui me semblait là qu'il y avait une injustice. Et de montrer aussi, à travers cette exposition, que derrière quelques exemples célèbres, comme Valadon, mais aussi Camille Claudel, et puis dans une moindre mesure, Marie Laurencin et Sonia Delaunay, eh bien, elles sont extrêmement nombreuses à avoir contribué à l'éclosion des avant-gardes et de la modernité dans cette génération 1880-1940.
Suzanne Valadon a grandi dans une famille modeste du Limousin. Elle fuit la misère en partant à Montmartre. Elle va d'abord étudier chez les Bonnes Sœurs, mais ne brille pas dans les études. Et une rencontre va finalement bouleverser son destin.
En fait, un jour, elle livre du linge à Pierre Puvis-Chavannes, le grand peintre qui est d'ailleurs originaire de notre région, dans la famille originaire de Cuiseaux. C'est en lui livrant du linge pour sa mère, qui est blanchisseuse, qu'il lui demande de poser pour elle. De fil en aiguille, elle va commencer à poser pour tous les grands artistes de cette époque, pour Renoir, pour Toulouse-Lautrec, avec lequel elle vit une passion. Et ces deux gars qui va véritablement l'encourager à devenir artiste et lui enseigner la gravure.
L'œuvre choisie pour représenter l'exposition, c'est la Chambre bleue de Suzanne Valadon. Elle représente une femme très décontractée, allongée sur un lit, une représentation audacieuse de la femme pour l'époque.
Valadon va encore plus loin, puisqu'en l'occurrence, son modèle, qui en fait était sa domestique, ne répond pas du tout au canon de beauté. Voilà, c'est un modèle assez corpulent, habillé en pyjama, qui fume et qui ne nous regarde pas et qui n'est pas du tout dans une pose lascive, érotisante. Donc là, c'est évidemment en rupture totale avec la représentation traditionnelle du corps féminin.
L'exposition avait été repoussée déjà en 2020 pour que le public puisse la voir. Malheureusement, la situation sanitaire ne s'est pas améliorée. Le monastère a donc dû s'adapter à nouveau. Il propose au public d'observer les œuvres sur son site, comme si vous y étiez.
Pour cette exposition virtuelle, nous avons retenu le prestataire Calyptone qui, en un temps record, en l'espace d'une semaine, a réalisé le tournage, a intégré un certain nombre de photos et de vidéos et de contenus interactifs pour donner donc l'illusion que l'on parcourt l'exposition et puis évidemment donner envie de venir la voir en vrai parce que bien sûr rien ne remplace le contact réel avec les œuvres.
Et n'hésitez pas à aller sur le site du monastère pour voir cette exposition en accès libre. Le catalogue de l'exposition est aussi en vente à la boutique du monastère. Il faut appeler pour prendre rendez-vous et venir le chercher. L'exposition Valadon et ses contemporaines, c'est jusqu'au 27 juin au monastère Royal de Broue et sur Internet.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
Et on se retrouve lundi prochain à 18h. Belle semaine sur nos ondes.
Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Radondi.